vous dire. Il y a du café, des jus de pomme et un infokiosque pour s'il y en a qui veulent prendre des trucs à lire pour après et aussi boire quelque chose pour se réchauffer.
Voilà. Je crois qu'il y a le comité toulousain qui voulait faire une prise de parole.
La tempête a emporté tout ce qui faisait obstacle à sa course folle.
Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de sombrer dans l'éco-anxiété et être dans l'action ?
Et donc nos luttes d'occupation pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine.
Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble, l'art de la fête.
Et en fait, on passe complètement à côté de ce que ça fait au monde d'optimiser. L'enjeu, ça va être de reconstruire.
La violence, c'est le mépris envers les populations.
Et c'est le bouffon du pouvoir, quoi.
Le principe, c'est de se réapproprier ses moyens de subsistance.
On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois.
Oui, ça va passer aussi par du sabotage.
Là, c'est une grue qui s'est effondrée.
Je sentais qu'il se passait quelque chose.
En train d'aller à l'audience, mais...
Avis de tempête, épisode 9, saison 3.
Merci d'avoir d'être venu, puis force à tout le monde.
Le devenir terroriste de nos luttes. Soutien aux inculpés du 8 décembre.
Du coup, juste avant de pouvoir manger pour les personnes pour qui c'est pas encore fait, on voulait proposer, vu qu'on vient de s'échauffer, grâce au slogan lancé par les camarades, de clôturer cette session de prise de parole avec une petite session musicale. Si vous ne l'avez pas vu tourner sur les réseaux ces dernières semaines pour appeler à ce rassemblement, c'est une chanson qui s'appelle « Et c'est qui les terroristes ?». Vous pouvez la trouver en page 1 du carnet de chant. Et on est accompagné en musique, si j'arrive à la lancer. C'est la toute première. Et j'espère que ça va marcher.
Où est tes carnets ?
Regarde autour de toi, qui a des carnets ? Sortez vos carnets !
Sortez vos carnets !
Le matin du mardi 8 décembre 2020, s'est déployé aux quatre coins de la France un coup de filet antiterroriste. 9 personnes, qui ne se connaissent pas tous, sont arrêtées et placées en garde à vue par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, dans le cadre d'une enquête pour, je cite, « association de malfaiteurs terroristes ». Le pouvoir politique et la police désignent ces personnes comme appartenant à l'ultra-gauche.
L'ultra-gauche.
Des militants d'ultra-gauche.
Appartenant à l'ultra-gauche.
Coup de filet dans l'ultra-gauche.
Il a dit que c'était un coup monté de l'ultra-gauche, carrément.
7 personnes sont mises en examen. 5 passent de nombreux mois en prison et l'un d'eux, Florian D, surnommé Libre Flo, passera 16 mois à l'isolement total. Vous en avez sûrement entendu parler. Le 27 février 2022, Libre Flo, à l'isolement depuis le début de sa détention provisoire, entame une grève de la faim pour protester contre l'acharnement carcéral qu'il subissait, s'apparentant à de la torture blanche, ainsi que pour dénoncer la criminalisation de l'État envers lui et les autres militants qui ont combattu Daesh auprès des forces kurdes au Rojava, les YPG, unité de protection du peuple en kurde. Le Rojava, c'est un territoire élargi au nord-est syrien, qui regroupe des populations kurdes, arabes, turkmènes et bien d'autres, et de différentes régions. Il est certes connu comme le lieu du combat contre Daesh depuis 2014, mais le PNAT, parquet national antiterroriste, prétend que le Rojava est devenu le terrain d'exercice aux armes pour l'ultra-gauche. En réalité, c'est un territoire d'expérimentation du confédéralisme démocratique, une alternative basée sur un fonctionnement sans État, théorisé par Abdullah Öcalan, créateur du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, emprisonné et mis à l'isolement par l'État turc depuis 1999. Ce procès est donc aussi celui d'un combattant contre Daesh. Libre Flo sera libéré sous bracelet électronique après 37 jours de grève de la faim. L'État sera même condamné à indemniser Libre Flo pour le préjudice subi. Ces arrestations sont intervenues dans un contexte politique de criminalisation croissante des mouvements sociaux. Le recours à l'accusation d'association de malfaiteurs est toujours plus utilisé pour casser les collectifs militants et écraser nos luttes. Nous assistons depuis plusieurs années à une surenchère législative. La loi sécurité globale, la loi séparatisme, décret Darmanin, loi SILT. Avec la mise en œuvre d'une forme de justice prédictive, où les militantes sont présumées coupables et les personnes désormais jugées sur des présomptions d'intention et non plus sur des faits. On rappelle que plus récemment, l'infâme Darmanin qualifiait les personnes mobilisées à Sainte-Soline contre la construction des méga-bassines d'éco-terroristes. Qualifier des militantes anarchistes ou de gauche de terroristes n'est pas chose nouvelle. Avant cette affaire, la dernière saisine connue de la justice antiterroriste pour des faits liés à l'ultra-gauche remonte à l'affaire Tarnac, en Corrèze, en 2008, pour des soupçons de sabotage de lignes de TGV. L'affaire Tarnac, c'est des gardes à vue terroristes, des mois de détention provisoire, des années de contrôle judiciaire, une décennie de procédures, tout cela pour arriver à un effondrement spectaculaire du dossier et à la relaxe de la plupart des prévenus. A l'inverse, le délibéré des inculpés du 8 décembre, c'est une étape franchie dans cette tendance très inquiétante à criminaliser toujours plus les militantes en lutte contre le capitalisme et l'écocide en cours. Ici, les inculpés risquent plusieurs années de prison, alors même que l'accusation reconnaît qu'après 3 années d'instruction, aucun projet d'action violente ne peut leur être reproché. Leur procès, ouvert au public, s'est déroulé en octobre dernier, au tribunal de Paris, porte de Clichy. Il est alors évident, pour toutes celles et ceux qui suivent cette affaire, que la crainte en cas de condamnation serait d'enclencher un effet de tache d'huile sur les mouvements sociaux et écologistes. La solidarité est ce qui les terroristes qui condamnent la terre. Nous ne sommes que des fascistes qui mènent des luttes. J'ai passé 3 journées à suivre ce procès. Rapidement, j'ai décidé de réaliser un épisode pour Avis de Tempête. Je me suis aidée de mes notes pendant le procès, d'un article qui condense le suivi journalier des audiences sur Paris Lutte Info. J'ai aussi pris du son lors du rassemblement clôturant le procès. Dans cet épisode, on ne va pas rentrer dans les détails de l'affaire du 8 décembre, déjà parce que d'autres l'ont fait avant nous, et avec les premières concernées. Je ne peux que vous conseiller d'écouter les épisodes du podcast « L'actu des oubliés » sur le sujet ou d'aller lire le blog des inculpés. Tous les liens sont en bio. Avec cette affaire, nous nous poserons surtout la question du devenir terroriste de nos luttes. Comment la jurisprudence évolue à une vitesse très inquiétante pour les militants. Et plus généralement pour toute la population française. Je suis devant le tribunal de Clichy. Je ne suis jamais rentrée à l'intérieur et je me demande bien comment trouver la salle. J'aperçois un groupe, des cheveux bleus, en pagaille, d'autres tout de noir vêtus. Un groupe d'avocates qui sortent fumer des clopes, l'air tendu, pour ne pas dire complètement dépité. Pas de doute, il suffit de les suivre. Des bancs blancs, parquet clair, tout est propre, tout est vitré et transparent. J'arrive dans cette salle, je lis sur le mur à ma droite, écrit en immenses lettres noires, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » Article 16 du Code de procédure civile. Une salle d'audience remplie de peut-être 60 de personnes. La police encadre les audiences, fouille à l'entrée, des sacs et des corps. Les keufs évoluent librement dans la salle. Ils regardent ce qu'on fait, comme des surveillants lors d'un examen scolaire. Sauf qu'ils ont des gilets pare-balles et des guns. Tellement étrange, cette proximité soudaine entre militantes, police et justice.
421-1. Mon Dieu, tous les post-it, c'est l'angoisse. Alors, 421-1, des actes de terrorisme. J'ai étudié le droit assez tardivement, par le biais de la philosophie du droit d'abord. Donc le pénal, c'est assez... assez différent, j'en parlerai, mais bon, on voit bien que ça prend la même direction que le droit public, hein, à savoir une répression de plus en plus importante sur fondement de terrorisme, qui est un terme un peu ambivalent. J'ai pu suivre le procès du 8-12, qui m'a, dont le résultat m'a grandement inquiété, c'est un peu le sujet du jour. La définition du terrorisme dans le code, elle est donnée aux articles 421-1 et suivants du code pénal, et c'est, donc je le lis, constitue des actes de terrorisme lorsqu'elles sont, entre guillemets, intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes. Et là, il y a une liste d'infractions déjà existantes dans le code, à savoir atteinte volontaire à la vie, à l'intégrité de la personne, enlèvement, séquestration. Il y a aussi vol, extorsion, destruction. Donc bon, tout ça est donné à l'article 421.1. Et on voit un peu plus loin, et ça c'est assez important, est-ce que c'est pas 421.3, si je crois que c'est ça, que quand il s'agit d'actes terroristes, les peines sont aggravées. Ça, c'est important à souligner. Donc ça, c'est la définition juridique en droit français. Après, il y a des définitions moins juridiques. J'en ai trouvé une pas mal. Je l'avais notée, donnée par le monde diplomatique. Donc, terrorisme, selon le monde diplo, c'est tactique d'emploi de la violence, entre parenthèses, sabotage, attentat, assassinat, enlèvement, prise d'otage, à des fins politiques pour déstabiliser et frapper massivement l'opinion publique et les États concernés. Le terrorisme peut être le fait d'individus ou de groupes non étatiques en lutte contre un régime politique, mais également, et ça c'est important, constitue un mode de gouvernement par la terreur. Il s'agit alors de terrorisme d'État. Toute tentative de définition du terrorisme soulève invariablement des débats, car elle pose la question de la violence légitime et du droit à la résistance d'une part, et de l'illégitimité de la violence étatique de l'autre. L'appellation terroriste utilisée par les États, les institutions ou les partis politiques est hautement péjorative et toujours contestée par ceux qu'elle désigne ainsi comme individus ou groupes ennemis. Voilà, je pense que un truc qu'on peut souligner en plus, c'est vraiment que le terrorisme, le terme et le droit anti-terro, c'est un outil de répression assez phénoménal. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est assez récent. Il me semble que la première apparition en droit français, et c'est assez révélateur du terme terroriste, l'utilisation du terme terrorisme en droit français en pénal, ça remonte au régime de Vichy. Et ça désigne les opposants au régime de Vichy. Ça n'a pas été repris à la Libération et ça revient dans les années 80, à partir de 86. Et là, il y a une explosion de lois qui recourent à ce terme. C'est donc relativement récent. La spécificité de ces lois, c'est que en fait, elles vont créer un régime à part en matière de terrorisme, donc des juridictions spécialisées. En procédure, il y a plein de spécificités autorisées en droit antiterro, donc des temps de garde à vue plus longs ou ce genre de choses. Et une loi que je trouve importante parce qu'elle a été en partie, justement sur la définition du terrorisme, en partie censurée par le Conseil constitutionnel, c'est celle du 22 juillet 1996, parce que j'ai trouvé un truc hallucinant que j'ignorais complètement. C'est donc loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire. Le texte introduit un délit d'association de malfaiteurs terroristes en relation avec une entreprise terroriste. Le législateur avait souhaité introduire dans la liste des actes terroristes le délit d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier des étrangers. Faisant de ça du terrorisme. Donc ça montre bien l'exploitation politique de ce terme. En fait, pour moi, quand on est en antiterro, on est en politique pénale, quoi. Si ce n'est pas toujours le cas, mais dans ce domaine particulièrement. Et le Conseil constitutionnel avait censuré cette disposition, estimant que le législateur avait entaché son appréciation d'une disproportion manifeste. Mais voilà, ça montre le jeu autour de ce terme. Pourquoi cet accroissement de lois antiterro sur les 40 dernières années ? Ça, je pense qu'il n'y a pas de réponse précise. Ça peut venir à la fois d'une véritable peur, bien qu'elle soit infondée, du grand remplacement ou je ne sais quelle connerie de ce genre, ou être purement politique, ou, et je vais te dire après pourquoi c'est une explication plausible pour moi, mais même bien que ce ne soit pas la seule, une espèce de volonté de l'État-nation de survivre alors que ce modèle d'État est de plus en plus en danger. Je dis ça parce que, en fait, les articles 421 et suivants, ils sont dans un titre du code, qui en fait concerne la protection de l'État et de la nation. Enfin, c'est livre, pas titre. Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique. Ils sont insérés dans ce. Donc, il y a vraiment une fonction protectrice de l'État et de sa structure. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de chercheuses qui proposent, dont je vais te citer deux noms, Julie Alix et Olivier Kahn, qui proposent de renommer ce droit. Et le terme exact que elles emploient, c'est « droit de la sécurité intérieure ». Et je trouve qu'on pourrait même dire, du coup, du maintien de l'État. Ce que je trouve dingue, ce que je te disais, c'est l'aggravation des peines. Enfin, quand on prend un peu de recul, c'est quand même fou qu'un même délit ou crime soit considéré comme beaucoup plus grave parce qu'il est commis contre, entre guillemets, l'État, plutôt que contre une personne. Enfin, il est où le curseur, quoi ? Qu'est-ce qui justifie ça ? Et pour revenir sur l'histoire du droit antiterro, il y a donc une nouvelle accélération après les attentats de 2015, évidemment, avec plusieurs lois dont tu m'as parlé, SILT, séparatisme et la loi immigration actuelle, par exemple. Et là, c'est un peu différent, c'est vraiment une revalorisation des pouvoirs de la police administrative par rapport au droit pénal. Donc on n'est plus seulement dans la spécialisation, on est dans donner plus de pouvoir côté admin que côté pénal en matière de terrorisme, ce qui est assez dangereux parce qu'on n'a pas du tout les mêmes garanties procédurales. Non seulement les peines sont aggravées, et en plus de ça, il y a de moins en moins de garanties procédurales, enfin ça devient assez... Là, on atteint un stade douteux en termes de droits humains et d'état de droit. Mais bon, enfin... Le 8-12, ça m'a même carrément... Enfin, j'avais déjà perdu espoir, entre guillemets, en droit admin, mais le 8-12 m'a un peu ébranlé, même côté droit pénal. Donc, si les deux se mettent à prendre la même direction, c'est vraiment de plus en plus inquiétant.
On va lire un texte écrit à plusieurs mains depuis le début de ce procès. Il faut déjà y entrer dans ce gratte-ciel de 160 mètres de haut, 120 000 mètres carrés de surface, droit et transparent comme la justice. Ce qui est sûr, c'est que ce grand building penche indéniablement à droite. Il faut passer un premier contrôle des sacs, puis un second avec rayon X et portique détecteur de métaux, surveillé par des dizaines de caméras et des policiers armés de fusils d'assaut. Tu es de nouveau fouillé devant la salle, elle-même surveillée par des flics, payée à attendre toute la journée et à mater les meufs qui sortent. Il faut supporter la condescendance et le mépris de ces gens qui se croient au-dessus de tout et surtout de nous. À commencer par Madame la Présidente, ou devrait-on dire Son Altesse, qui à une personne lui demandant de parler plus fort car elle n'entendait pas, répond « Je ne vous permets pas de m'apostropher de la sorte, passez par un avocat si vous avez quelque chose à me dire. » et qui prend un plaisir non dissimulé à nous laisser debout devant elle jusqu'au silence complet, avant de nous autoriser à s'asseoir. Bienvenue au collège ou à l'armée. Violence de cette justice complice, dès le départ, qui refuse d'emblée, sans aucune justification, toutes les demandes de la défense pour accéder à des informations retenues par la DGSI. Une demande pourtant basique,
auditionné les deux gradés de la DGSI, auteur de plus de 150 procès-verbaux suspects. Sous la plume de certains agents, à l'imagination fertile, une chouette team devient une shot team. Et quelques coups de marteau et de spatule deviennent une séance de tir de 2 heures. Lorsqu'une vidéo issue d'un dispositif d'espionnage aurait pu lever le doute sur ce point, elle est involontairement détruite par la DGSI. Du jamais vu, selon une avocate. Tout comme le doute aurait pu être levé concernant les déclarations en garde à vue par l'obtention des vidéos. Mais, malgré les témoignages de menaces, malgré les coupures techniques durant lesquelles les flics te manipulent, et malgré la contestation quasi unanime des propos tenus lors de ces gardes à vue, là encore, ce sera refusé par le tribunal. Ces gens semblent au-dessus des lois et n'auront pas à répondre de leurs actes. Ils pourront continuer d'écrire peinards, de faux PV et des notes blanches qui envoient les gens au trou, et le tribunal leur donne carte blanche. Violence des questions posées à chaque inculpé dans de soi-disant entretiens de personnalité. Emprunt de préjugés de classe.
Quelles sont vos ressources? Avez-vous des personnes à charge? Avez-vous des addictions?
Question dont le but est clairement exprimé.
Nous en tiendrons compte lors de notre décision.
C'est donc le statut social qui dicte la peine. Derrière son sourire mielleux et sa fausse politesse.
C'est juste pour mieux vous connaître, bien sûr.
La juge se permet des leçons de morale sur des choix de vie. Squat, nomadisme, travail au black, et de donner des conseils allant du psychologique à de l'orientation professionnelle. Une infantilisation permanente. Les questions reviennent toujours autour des thèmes de l'angoisse, par rapport à l'avenir, au confinement, au fascisme, sur les séjours en ZAD, la violence, le ressentiment envers la police et les institutions. Le sous-titre est clair et nauséabond.
Vous avez des traumas et de la haine anti-flic, ce qui vous rend fragile et dangereux.
Ou comment les horreurs commises par les forces de l'ordre sont retournées pour tenter de criminaliser les compagnons du 8 décembre.
Sur l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes qui nous intéresse, je vais peut-être lire l'article 421.2. Oui, c'est l'article 421.2.1 du code pénal. Hop, hop, hop. Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents. Et ce qui est fou avec cette infraction, et ça c'est encore Julie Alix et Olivier Kahn qui le disent, il me semble, c'est que on va abandonner au nom de la nature du risque le passage à l'acte comme élément pénal de référence. Et c'est en rupture complète avec le droit pénal qu'on connaît. Et donc c'est très risqué, encore une fois. Disons que la base du droit pénal, c'est réprimander, entre guillemets, la commission d'une infraction intentionnelle la plupart du temps. Là, on va intervenir préalablement à la commission d'une infraction pour réprimander quelque chose qui pourrait peut-être se... Et enfin, ça, c'est de la prévention. Et normalement, le but du droit pénal, c'est pas... si c'est de prévenir la commission d'une nouvelle infraction, pas de toute infraction. Et d'ailleurs, les inculpés du 8-12, je crois qu'aucun n'avait été condamné pour terrorisme, voire du tout, d'être prévenu, quoi. En fait, où est-ce qu'on fixe la limite, quoi, si la limite, c'est pas la commission de l'infraction? Qui peut juger que peut-être un crime ou un délit pourrait se... Enfin, l'article sur l'AMT réclame la démonstration d'éléments matériels, mais enfin, c'est un fourre-tout pas possible, cet article. Et d'ailleurs, non seulement on assiste à une densification du recours à l'AMT par la section C1 dont je vais te parler, puis par le PNAT, le Parquet National Antiterroriste, et en plus de ça, ça a été utilisé dans l'affaire du Tarnac, dans l'affaire du 8-12, qui sont des affaires qui n'ont rien à voir en termes de... Enfin, on assiste à du sabotage d'un côté, de l'autre, des accusations fondées ou non sur manipulation d'explosifs ou jeu d'airsoft. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une infraction fourre-tout et stratégique, en fait, et politique. Donc je parlais du PNAT, qui est le Parquet National Antiterroriste. Il existe depuis, je crois, juillet 2019, donc c'est assez récent. Sa création participe du courant de spécialisation dont je te parlais en matière terroriste, parce qu'avant, c'était le parquet de Paris, même s'il y avait une section spécialisée qui s'appelait C1, qui s'occupait des affaires relatives au terrorisme. C'est en fait une étape supplémentaire dans la création d'une, ouais, d'une justice parallèle dans ce domaine. Oui, c'était encore la section C1 qui existait à l'époque du procès de l'affaire Tarnac. Et c'est le grand fiasco, d'ailleurs, de la section C1, cette affaire, parce que la qualification terroriste, elle n'a pas été retenue par la Cour, ce qui n'est pas le cas dans l'affaire du 8-12. Dans les deux cas, pour moi, il s'agit de stratégie politique, de fabrication d'un dossier par la DGSI et le PNAT. Mais ce coup-ci, ça a marché, quoi. Je voudrais pas dire que la justice a changé de camp. J'espère pas. Mais ça m'inquiète un peu. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Encore une fois, il y a plein d'explications plausibles, j'imagine. Les attentats de 2015. Une droitisation et une autoritarisation de l'État. J'ai pas de réponse exacte. Tout ce que je sais, c'est pour en revenir au PNAT, c'est qu'il y a un risque à cette ultra-spécialisation, non seulement parce que du coup, ils sont, en termes de prise de recul sur un dossier, ça devient un peu des obsessions, quoi, quand on est ultra-spécialisé des affaires terroristes. Et en plus de ça, je trouve que ça pose un peu la question, faudrait fouiller dans le détail sur le mode de recrutement. Mais qui est-ce qui veut absolument faire partie du... Enfin, qu'est-ce que ça attire, quoi des juridictions ultra spécialisées, surtout en termes de terrorisme. À l'époque de la création du parquet, ça a été justifié par une logique d'efficacité, évidemment, hein, et de croissance des cas, qui est selon moi relativisée. C'est possible, mais il y a aussi une croissance de l'attention portée à ce sujet.
Le déroulement choisi par la juge pour ce procès a été le suivant. D'abord, il y a l'étude des personnalités, puis les faits les plus graves, entre guillemets. C'est-à-dire les essais de confection d'explosifs et la détention d'armes par les prévenus, couplés aux parties d'airsoft, suivis des outils de chiffrement et enfin du fameux entre guillemets projet, qui a été expédié en à peine 2 heures par le tribunal. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'étude des personnalités. Sur la question des personnalités, la juge procède quasiment de la même manière pour toutes les prévenues. Elle commence par le parcours scolaire, les antécédents judiciaires et les différents boulots. S'il y a des antécédents judiciaires, c'est donc un des premiers points abordés lors de l'étude de personnalité. Et enfin, s'il y a eu un passage de vie en ZAD, zone à défendre, elle y vient assez vite et fait preuve de beaucoup d'insistance sur ce point. Elle use abondamment de raccourcis et de syllogismes. La présence sur les ZAD manifeste pour elle une preuve de radicalisation et de violence. Or, certains prévenus ont été sur la ZAD de Sivens.
D'abord, il y a la ZAD de Sivens. Cette lutte écologiste où punk et hippie se sont retrouvés pour tenter de s'opposer à un projet de barrage en 2014 dans le Tarn. Ce sont les meilleurs et les pires souvenirs de ma vie, dira un inculpé. Là où nous avons découvert une forme de résistance par l'occupation d'une forêt pour en faire le lieu de notre utopie, nous avons aussi découvert l'autorité mortifère de l'État, prêt à raser, broyer et assécher illégalement une forêt, une zone de vie et de biodiversité, pour asseoir un projet idiot au service de l'agro-industrie. Nous avons vu la désolation et la mort au travers de la violence des forces de l'ordre qui voulaient à tout prix nous chasser. Saccage, humiliation, blessure et finalement le décès d'un jeune manifestant dans la nuit du 25 octobre. Nous n'avons toujours pas les mots pour vous raconter cela. Le procureur nous parle ici de la forme la plus récente de la violence de l'ultra-gauche. Nous, on se souvient surtout d'après-midi entières à essayer de construire des cabanes dans les bois, développer toutes sortes de tactiques farfelues pour ralentir les travaux et surtout des débats infinis entre véganes, éleveurs, naturalistes, citoyennistes, squatteurs, féministes, teufeurs, bref, une expérience de la démocratie directe où on évolue et où on fait grandir ensemble une lutte. C'est pas un truc de ouf non plus, hein. On ne voudrait pas vous faire croire que c'était le paradis. Mais pour celles et ceux qui y sont restés, ça nous a tellement marqué que les liens que nous y avons construits sont puissants et nous unissent encore. On remercierait presque le PNAT de nous avoir à nouveau réunis 9 ans plus tard. Mais nous n'oublions pas, alors qu'à l'époque où on nous disait déjà, en se faisant courser ou détruire nos caravanes, que nous étions des terroristes, que la répression nous coûte et nous abîme. Viens,
Plus de 200 personnes sont présentes au rassemblement pour soutenir les amis. Une présence chaleureuse et solidaire, avec banderoles, piñata, boissons chaudes, gâteaux, t-shirts, stickers et batucada. Le rassemblement sera bref. Presque tout le monde s'engouffre dans cet immense immeuble de verre et de béton armé, pilier du pouvoir de l'État qui trône porte de Clichy à Paris. La salle est pleine à craquer. La tension est palpable. Les inculpés entrent petit à petit, et les applaudissements retentissent en guise d'encouragement. Des proches sont présentes, la famille, les amis, également beaucoup de soutien politique. L'alarme sonne, le tribunal entre et exige le garde-à-vous de la salle. L'audience démarre, la présidente, le regard sévère, ouvre rapidement les hostilités. Toutes les demandes de la défense sont rejetées, une par une. L'indignation dans la salle commence à se faire sentir. La juge rappelle la salle à l'ordre et menace une première fois de la faire évacuer. Elle continue son œuvre autoritaire avec une lecture très scolaire de l'article 421 du Code pénal afin de remédier à notre, entre guillemets, « méconnaissance » de la loi. Puis elle résume, en reprenant l'interprétation exacte du PNAT, les jurisprudences en matière d'association de malfaiteurs terroristes. À sa façon de lire, tout le monde comprend qu'elle maintient la qualification terroriste. Des murmures de protestation commencent à se faire entendre dans la salle. En effet, pour constituer une association de malfaiteurs terroristes, il n'est pas nécessaire de prouver qu'un projet terroriste existe bel et bien. Il est seulement nécessaire de démontrer qu'un inculpé avait des intentions à plus ou moins long terme de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur pour condamner tout le monde. Il n'est pas nécessaire que chaque individu ait connaissance de ses intentions terroristes pour être coupable, mais uniquement d'y avoir participé d'une manière ou d'une autre. La présidente réaffirme que les intentions terroristes sont matérialisées pour libre flot et que les autres sont donc tous coupables par association. Rupture de l'ordre dans la salle. À l'issue de 30 pénibles minutes d'audience, la présidente demande l'évacuation de la salle. Tout le tribunal se retire et les flics se positionnent en vue d'expulser par la force les quelques 200 personnes présentes. Certains enfilent leurs gants coquets. Les proches se lèvent et viennent serrer dans leurs bras les inculpés qui, on l'a compris, vont être déclarés terroristes d'ultra-gauche. Furieuse, la juge passe outre ses devoirs de fonctionnaire de justice rémunérés par nos impôts et décide de passer directement au prononcé des peines, sans prendre la peine d'expliquer en détail ses motivations. Les avocats s'offusquent, mais, autoritaire, elle demande aux prévenus de s'aligner devant elle pour annoncer les peines. Le verdict est tranchant. Tous sont reconnus coupables d'associations de malfaiteurs terroristes. Les peines vont de 2 à 5 ans de prison, dont plusieurs mois de sursis probatoire. L'inscription au FIJAIT, fichier des auteurs d'infractions terroristes, pour 20 ans, est acté pour tout le monde, sauf pour un inculpé, au vu de sa personnalité, autrement dit, le moins militant. Cette inscription, c'est être fiché terroriste à vie.
Et au délib, elle a fait un truc, je te parlais tout à l'heure de l'imperméabilité et de la violence entre les groupes sociaux, entre guillemets, et de la violence institutionnelle. Elle a fait une blague, je crois, pendant le délib. Je me souviens de ce que signifiait la blague, je me souviens plus des mots exacts qu'elle a employés. Mais en gros, elle leur expliquait comment ça allait se passer, la lecture de la condamnation. Elle leur a dit, vous serez assis, je vais vous dire de vous lever, je vais vous lire votre condamnation, ensuite il va falloir se rasseoir, un peu comme aux chaises musicales. Et tu vois, moi, c'est ce genre de truc qui ne passe pas. Enfin, c'est d'une... Et ensuite, tous condamnés, quoi. Et un autre truc qui a été très, très, très violent pendant le délib, c'est justement le fait qu'elle était très maîtresse d'école et que... quand les soutiens ont senti que ça commençait à sentir le roussi et se sont exprimés, elle a suspendu l'audience, leur a demandé de partir, y compris la famille. Les policiers sont arrivés par dizaines, ont mis leurs gants et ont pris les daronnes par le bras. Et il y a un truc qui m'a marqué de ouf, c'est que il y a la mère d'une des inculpées qui a dit aux policiers « Imaginez, ce serait votre enfant ?» Et le policier a répondu « Je serais pas fière, madame. »
On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour nos amis squatteurs. Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour nos amis squatteurs, même si Macron ne veut pas, nous on est là.
Non justice, non peace, fight the police. Non justice, non peace, fight the police. Pas de paix, pas de paix, pas de paix. À bas, l'État, les flics et les fachos. Bas, l'État, les flics et les fachos. À bas, l'État, les flics et les fachos. À bas, l'État, les flics et les fachos.
Violence d'être comparée à l'État islamique, à l'extrême droite, sous prétexte de l'accusation fourre-tout du terrorisme. Une assimilation entretenue par Darmanin et s'illustrant dans les lapsus du procureur confondant un inculpé avec Mohamed Merah. Violence de devoir exhiber tes tripes, tes problèmes, ton intimité, d'être obligé d'étaler ta vie pour te justifier devant des gens qui t'ont enfermé et meurtri. Violence de devoir en plus utiliser leur langage, leur code, être poli, cohérent, ne pas avoir de trou de mémoire quand chaque parole inexpliquée est frappée de soupçons. Ce sont leurs règles, et soit tu t'y plies, soit tu ramasses. Violence de voir qu'il ne s'agit pas d'une bavure, mais bien du fonctionnement de la justice française. S'expliquer pendant une heure sur ses opinions de la justice, car on a eu l'audace de citer une sociologue pour expliquer son refus de se soumettre à l'enquête de personnalité et aux expertises psychologiques et psychiatriques. Vous donnez l'impression que ça vous met en colère, qu'on cherche à vous connaître, se voit-on reprocher. L'envie de s'énerver. Je venais de vivre les pires violences de ma vie. Arrestation antiterroriste, fouille à nu. Mais il faut rester calme. Je préfère parler moi-même quand il s'agit de me définir. Restez calme face à des juges au ton agressif. Cette lettre en dit long sur vos convictions. La question ici est de s'en prendre violemment aux institutions. La justice en est une. Vous critiquez la justice et ne lui faites pas confiance. La juge que je suis se doit de vous poser la question. Est-ce que vous reconnaissez la justice française ? Que répondre à ça ? Heureusement, on se verra quand même rappeler que nous ne sommes pas là pour juger vos opinions politiques. Il n'y a pas de question piège.
Et pourtant, de jour en jour, l'absurdité de la situation nous saute aux yeux. Et le procès s'apparente de plus en plus à un plateau de CNews. Mais le tribunal ne semble pas s'en rendre compte. Les témoins sur le Rojava, sur les outils de communication, sur l'isolement carcéral, sont malmenés par les juges, tandis que les procureurs scrollent sur leur téléphone. Indifférence totale.
Allez, ça passe, l'ultra-gauche, c'est la nouvelle menace, c'est l'ultra-gauche. Est-ce qu'il s'est bien géré ? On va les aveugler et les empêcher de lutter.
Je crois que tu m'avais demandé aussi une définition de l'ultra-gauche. Moi, je me méfie grave, évidemment, de ce terme qui est d'ailleurs beaucoup utilisé par le FNAT, enfin par le parquet, parce que c'était le cas par C1 aussi, qui a été utilisé dans l'affaire du Tarnac, qui a été utilisé dans l'affaire du 8-12, qui est un peu fourre-tout. Et j'avais trouvé... Oui, alors, fourre-tout d'autant plus que, enfin, souvent, les militantes ont des idéologies beaucoup plus précises et se revendiquent d'idéologies. Et je vois pas pourquoi, si ce n'est pour des raisons évidentes de décrédibilisation et enfin, pour faire peur, quoi, on n'emploierait pas, je sais pas, les termes desquels ils se revendiquent eux-mêmes. Donc c'est une stratégie, encore une fois, tout comme l'utilisation du terme terrorisme. Bon, après, ça a peut-être une utilité pour certaines chercheuses. Par le parquet, en tout cas, je doute que ça ait une utilité autre que faire flipper. Ça, je peux t'en parler plus du coup en droit public. Y a vraiment un lexique qui se développe dans les notes blanches. Enfin, un lexique
c'est quoi,
de.
Les notes blanches
c'est tout ce qui est affaire d'ordre public en droit. Et c'est un très bon exemple aussi des différences entre droit pénal et droit public en termes de garantie. Il y a énormément d'expulsions. Il faut savoir que la différence entre une obligation de quitter le territoire français, donc OQTF, et une expulsion, c'est souvent que l'expulsion concerne des faits plus graves, entre guillemets, et que les personnes concernées par les expulsions, en fait, résident régulièrement sur le territoire français. Donc ça va être, en fait, retrait de titre et expulsion. Sur le fondement de la production d'une note blanche par la DGSI, qui fait souvent une page, qui n'est absolument pas sourcée, dont on n'a pas le nom des enquêteurices, comme d'ailleurs le 8-12, c'était des témoins anonymes qu'on n'a pas pu appeler à la barre, quoi. Dans ces notes blanches, il y a un lexique de la terreur qui est développé. On nous parle de djihad, de djihadistes dans des dossiers qui n'ont rien à voir avec une quelconque supposition de départ, que des trucs comme ça, mais aberrants, pour faire flipper. Et en fait, ça marche. Les magistrats, ils flippent. Je comprends qu'ils flippent. J'imagine que dans leur tête, ils se disent qu'ils voudraient pas être celui ou celle qui prend le risque. Mais tout ça, c'est insufflé par un lexique du terrorisme, de la terreur, mis en place par le ministère de l'Intérieur... ou par le parquet, quoi. Donc les termes, c'est hyper important. Et effectivement, comme tu dis, je trouve ça fou qu'ils soient utilisés par le parquet, enfin, par la justice, et dans le code. Parce que, des actes de terrorisme, quoi, c'est dans notre code pénal. Enfin, bon, ce que je constate, c'est une surutilisation du lexique de la peur, quoi.
D'accord.
Et qui de plus en plus fonctionne, par contre. Surtout dans des périodes post-attentat, genre post-Arras, si tu commences à parler des profs, ou en fait dans des dossiers qui n'ont... Enfin, je sais pas, tout est... Mais ouais, ça, les gens flippent, donc... Mais d'ailleurs, un truc aberrant... je me souviens que dans les réquisitions du proc pendant le procès du 8-12, il a parlé de l'assassinat de Sadi Carnot en 1894... de l'attentat du PKK à Ankara en octobre, évidemment d'action directe, mais enfin je veux dire action directe, il y a eu des morts. Là, on n'est pas du tout. Non, enfin tu vois la peur insufflée. Et en fait, c'est leur stratégie principale et ça me rend ouf, mais ça marche. Il a même parlé de 2015, donc pour montrer un peu vraiment le fourre-tout que c'est et le danger que c'est. Il y a énormément d'avocates qui sont très inquiets aussi, pas que des militants, du tournant que ça prend. Si on restreint les garanties, qu'on aggrave les peines, qu'on a de plus en plus recours à des textes fourre-tout, on va où, quoi ? Et je sais pas si le 8-12 marque un tournant, mais, parce que je m'y connais pas du tout assez, mais c'est pas... En tout cas, c'est inquiétant.
Pour les soutiens remplissant la salle, il faut se taire et ravaler sa colère sous peine d'exclusion temporaire. Comme c'est arrivé. Mais rassurons-nous, la justice est rendue au nom du peuple français. Amen.
Il faut se blinder pour faire face à toute cette violence. Surtout, il faut du soutien pour tenir. Des rires dans la salle, des doigts qui claquent et des pieds qui tapent. Des sandwichs trop bons à la pause. De la dérision, des dessins et des caricatures qui font du bien. Des embrassades. Il faut également du soutien politique, car ce procès du 8 décembre nous concerne toutes et tous.
L'antiterrorisme est l'avant-garde du processus de fascisation de l'État français. Le terrorisme fait la une des médias, et plus le pouvoir en parle, moins on comprend ce que cela signifie réellement. Ce qu'on entend en revanche, c'est que le panel des terroristes s'élargit en permanence jusqu'à atteindre son réel objectif, disqualifier toute opposition politique. Il n'a jamais été aussi clair aujourd'hui que l'antiterrorisme a vocation à durcir tout l'appareil répressif. Et à mesure que l'État doit redoubler de violence pour se maintenir, violence sociale, économique, policière, carcérale et judiciaire, terroriser les pauvres, terroriser les étrangères, les étrangers, terroriser les opposants, les opposantes et terroriser les masses. L'antiterrorisme est l'outil le plus efficace pour gouverner par la peur. Depuis quatre semaines,
nous sommes dans ce tribunal aux côtés des inculpés du 8 décembre. Et depuis quatre semaines, les inculpés répètent inlassablement. Il n'y a jamais eu de projet d'action terroriste. Il n'y a jamais eu d'entraînement paramilitaire. Il n'y a jamais eu de groupe ni de leader. Toutes ces accusations sont fausses et ont été construites par la DGSI, puis validées par des magistrats qu'on a du mal à dissocier des flics. Ce procès a fait apparaître au grand jour la violence de la DGSI. Les méthodes pour obtenir des faux aveux en garde à vue, les PV erronés, les manipulations dans les retranscriptions et la rétention d'informations essentielles. Des arrestations au fusil d'assaut, des cagoules sur la tête et des camisoles. Les gardes à vue, les manipulations, les mensonges, les menaces, les drogues pour altérer la conscience, la privation sensorielle et les menaces d'agression sexuelle. Plusieurs de ces agissements sont des crimes dont la DGSI n'aura jamais à répondre. Ce procès aura aussi fait apparaître à quel point le PNAT préfère les aveux sous la torture blanche et la menace que des paroles réfléchies devant un tribunal. Comment leur biais cognitif et leur perversité les aveuglent face au ridicule de cette affaire. Comme l'indique une inculpée, contrairement à l'affaire de Tarnac, où l'enquête est construite pour essayer de trouver des responsables à un sabotage, là, nos vies sont passées au peigne fin pour essayer de les faire coller au récit qui est déjà annoncé et préconstruit par la DGSI. Ce procès s'inscrit dans un contexte de répression violente des luttes et contestations sociales en France, tant physiquement par des crimes contre les personnes que symboliquement par la qualification terroriste des opposants politiques. L'affaire du 8 décembre va encore plus loin. L'enjeu principal est non pas d'étendre le terrorisme au sabotage, mais plutôt de créer des possibilités légales de réprimer des expressions politiques révolutionnaires dans le cadre du pré-terrorisme. C'est le crime de la pensée qu'on tente de réintroduire ici. Nous sommes toutes concernées.
Coin. On m'entend là ?
Bonjour tout le monde. Je voulais juste faire. J'ai écrit un petit texte. À la base, je vais faire un gros texte pour ma déclaration ce soir, mais j'ai un peu plus travaillé un truc pour le soutien, pour tout le monde en fait qui est là, pour tout le monde qui nous soutienne. Donc voilà, qui je suis, Manu, un des co-prévenus. Et voilà, c'était important pour moi de faire un texte en m'inspirant un peu d'un son des BRU, de Salut à toi. Et donc c'est pour vous toutes et vous tous. Alors je commence. Je le fais pas en chanson, hein. je le lis juste. Hein. Donc c'est merci à toi qui viens de loin, qui parfois a dû frauder le train. Merci à vous les écrivains, tant d'articles, billets, chroniques, ça fait du bien. Et merci à tous les cuistots, midi soir et à toutes les pauses. Merci à tous les dessinateurs, vos coups de crayon réchauffent le cœur. Merci à vous les agités, ça siffle, grogne pour les faire vriller. Merci à tous les musiciens, concerts, freestyle, on vous entend de loin. Merci à tous les créateurs, banderoles, graffeurs et les casseurs. Merci aux journaux qui nous soutiennent pour que le grand public comprenne. Et merci à toi l'envolé qui brise les chaînes de tous les enfermés. Merci amour à toutes les familles, les amis et les anonymes. Depuis le début, personne n'a lâché. La répression, c'est pas que pour les inculpés. Et merci à tous pour vos sourires, câlins, force, vos bras, vos rires. Spéciale dédicace aux procureurs, greffières, juges et assesseurs. Votre fantasme est devenu réalité, on a tissé de vrais liens d'amitié. Merci à vous autres, de votre solidarité, sans ça on aurait déjà tous vrillé. Et merci pour les squats et l'hospitalité, les potes c'est mieux que le Valois-Perret. Bref, un tellement grand merci à toutes et à tous, histoire qu'il n'y ait plus de doute. On vous l'envoie aussi, recevez le bien, ce A d'amour dans un cercle de liens. Pardon pour ceux que j'ai zappés. Merci à vous, merci à toi, on s'en armé, aimé.
Depuis 3 ans, nous soutenons les inculpés du 8 décembre et depuis 3 ans, nous exprimons notre solidarité avec les cibles de la répression antiterroriste. Solidarité avec les militants kurdes qui passent actuellement en appel et qui ont été durement réprimés par la justice antiterroriste alors qu'Erdogan poursuit sa politique écocidaire et génocidaire au Kurdistan. Solidarité avec les révoltés par la mort de Naël, qui ont fait face au déploiement meurtrier des forces antiterroristes. Solidarité avec les inculpés du 15 juin 2021, dans le Limousin, suspectés d'avoir offert à 1 million de Français quelques jours sans télévision. Solidarité avec le compagnon anarchiste Ivan, arrêté par la SDAT et détenu à Villepinte pour avoir incendié des véhicules de diplomates. Solidarité avec Kamel Daoudi, enfermé à résidence à vie pour satisfaire les pulsions tortionnaires du ministère de l'Intérieur. Solidarité avec Boris, visé par une enquête antiterroriste pour l'incendie d'une antenne 5G à Besançon. Solidarité avec S, arrêté à Limoges, avec l'aide de la DGSI, puis condamné à 3 ans de prison ferme, suspecté d'incendie de véhicules de gendarmerie. Solidarité avec les camarades de la Pride radicale de Metz, dont un de leurs membres a été ciblé par une arrestation antiterroriste en mai dernier. Solidarité avec Georges Ibrahim Abdallah, enfermé illégalement par la France depuis plus de 40 ans. Et plus généralement, solidarité avec tous les camarades visés par le renseignement et la surveillance et l'antiterrorisme ces dernières années, de la Russie à la Palestine. Zadistes, féministes, antifascistes, anticapitalistes, écologistes, antiracistes et autres anarcho-punk campagnards, ne nous laissons pas antiterroriser. Solidarité avec les inculpés du 8 décembre.